Alors,
donc là, nous avons droit à 10 minutes de
questions. Je crois que voilà, j'en ai terminé pour...
Alors, est-ce que la révolte gronde pour faire la république ou la révolte ne gronde pas encore? Non. Non. C'est le calme plat. Donc, nous avons droit à 10 minutes de questions.
Non, c'est pas la peine. Je voudrais savoir si, à la place du joint de ciment lissé, est-ce qu'il y aurait une alternative? Alors, on prend est-ce que par exemple de la choue hydraulique est-ce que...
Oui, bien sûr. On prend toutes les questions, s'il est possible. Ouais. Ça va éviter de redonder.
Oui.
Voilà. Donc, il faudrait noter les questions. Oui.
J'entends rien du tout.
Que pensez-vous des murs qui sont passés goudronnés avant d'être complets?
Oui. C'est les bas de murs. Hein.
Les bas de murs, oui. Je lui donne.
Nouvelle question, c'est vous. Pour éviter que l'eau rejaillisse contre le mur, est-ce que plutôt que du pavé, qui me semble être justement propice à ce
rejaillissement,
est-ce qu'on ne peut pas tout simplement de la terre? Est-ce que c'est pas mieux? Ou
si.
Du petit gravier? Est-ce que c'est pas mieux?
Oui.
Quels sont les moyens pour un mur en pierre qui a été isolé par l'extérieur, donc qui est, et l'humidité remonte par le bas? Quels sont les moyens donc de compenser ça?
Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher une municipalité de faire un trottoir le long d'un mur? Oui, parce que là, c'est...
J'ai pas entendu. Oui. Allez-y.
Si je vais
dans une rue,
je trouve que
la vanille
ici dans une maison, qu'est-ce qu'on peut faire?
Sans
payer, qu'est-ce qu'on peut rendre
traitement
de...
La mérule.
Oui.
Moi,
je peux témoigner que la mérule, partout, par
exemple. Tu peux témoigner, ouais. Bon.
Une autre question. C'est quand les murs ont été cimentés à l'extérieur, le ciment paraît donc de bonne qualité, adhérent au mur. Est-ce qu'on peut envisager éventuellement, si on envisage par exemple une isolation extérieure, de le perforer pour lui permettre de redonner sa respiration, où il faut absolument quand même le libérer complètement?
Ok.
Une question.
Ça m'avait des questions.
Je vous entends pas.
Une maison en limousin ou un mur extérieur qui n'est pas rendu avantage à changer.
Oui.
Moi j'ai mon habitation que je suis en train d'instaurer, j'ai enlevé tout ce qui était enduit intérieur et j'ai envie d'enlever l'enduit extérieur puisqu'il y a du ciment dedans. Est-ce que je peux laisser en pierre apparente ou faut absolument à l'intérieur que je mette encore un enduit terre et chaux par exemple? Ou autre chose où je peux laisser des joints terre et chaux sans refaire un enduit comme vous avez dit tout à l'heure pour, et est-ce que l'hygro-gestion se refera de la même manière sans qu'il y ait un enduit en pied?
Bon, on répond là un peu, ça fait beaucoup là. Hein.
Oui, parce que ça fait beaucoup de questions, je ne sais pas.
Oh, si allez-y. Voilà.
Est-ce que les joints à la chaux faits à l'extérieur suffisent pour l'isolation extérieure?
Voilà. Les joints sans enduit donc.
Juste à la chaux, oui. Chaud tu fais.
Bon, il y a plusieurs questions, oui, ça se...
Voilà, c'est
évident. Donc, je vais essayer de répondre si vous n'êtes pas satisfait, vous.
Non, mais alors, il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à certains points.
Ah, ben oui, bien sûr. Isabelle, je te passerai la parole après sur la mérule. Hein, si... Bon, alors, sur la chaux hydraulique à la place du ciment, mais bien sûr, la chaux hydraulique est effectivement est moins perméable. Donc, elle va protéger d'une certaine manière votre mur, mais elle va laisser quand même la. L'humidité, donc elle va permettre un meilleur ruissellement si jamais il y avait un ruissellement à faire ou pas, c'est tout. Voilà. Donc, Alors le bas du mur, mais on va y revenir de toute façon. Le bas du mur goudronné. Alors ça, c'est une attitude. Je ne sais plus qui a posé la question là. Je n'ai pas fait le point encore là-dessus. Je sais que dans le nord de la France, il est de tradition qu'on goudronne le bas des murs. Vous allez jusqu'en Finlande, ils ont même en architecture contemporaine, et tous les bas des murs maintenant, dans les belles réalisations particulières, hein, dans les lotissements, etc., vous avez le bas du mur noir et puis toute la maison blanche faite aux petits soins. Donc, je ne sais pas que vous dire sur effectivement le comportement du mur une fois qu'il a été goudronné. Je sais que c'est une attitude courante. Je pense que c'est une attitude qui vient des cultures des marins. Donc, ils ont ces produits-là, ils les utilisent pour leur maison. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. À mon avis, ça ne respire pas tellement. La plupart du temps, ce sont des bâtis qui sont en briques. C'est pas en pierre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est capable d'expliquer cette attitude-là. Effectivement, dans l'Artois, dans Picardie, etc., dans le nord de la France. Vous en trouvez peut-être.
Dans les pays du Nord, ce qui explique ça, c'est que souvent, les gens les font sur les maisons en bois, en fait, sur les pans de bois qui descendent dans la terre.
Oui, mais le pan de bois, il ne va pas en bas. Hein. C'est dans la partie sous-bassement.
Mais peut-être qu'il y a des habitudes qui se prolongent à des endroits où on ne
pourrait pas se prolonger. Oui, je ne sais pas. Donc là, il y a une petite incertitude. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a des goudrons qui sont plus ou moins respirants, mais je pense quand même pas. Voilà. Non, je pense que... Alors,
je peux préciser une chose.
Oui.
La pratique de l'enduit en bas de mur. Bon, il faut bien voir d'où il est venu. Ce qui a été dit par Denis, en fait, le problème du rejet de l'eau, fait que les enduits en bas de mur ne tenaient pas. Oui. On le voit même d'ailleurs dans les endroits où il n'y a pas d'enduit. Le joint se dégrade. Donc une des pratiques en ville, c'est que le soubassement se faisait, mais se faisait à la chaux, avec une chaux qui était serrée.
Oui,
c'est par le fait du serrage de la chaux, oui, qu'on augmente la capillarité au niveau de l'extérieur et qui fait que l'eau qui est dans le mur puisse ressortir vers l'extérieur. Et là, on a un glissement dans la pratique, en perdant complètement le sens originel de la pratique, par la cimentation et augmenter la résistance, enfin augmenter la dureté de cet enduit, mais de façon anormale. Lorsqu'on est avec une chaux hydraulique, avec un granulat assez fin, on permet l'humidité qui est dans le bas du mur de pouvoir sortir. Mais sitôt on cimente, là on fait une barrière. Et donc l'humidité, elle n'est plus là, elle remonte, elle doit échapper au-dessus. Mais il faut bien voir que ça, c'est une pratique dans tous les endroits où on enduit. Lorsqu'on n'enduit pas, d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est par le rejet et par l'excès d'humidité. Donc là, c'est plutôt un problème d'entretien.
Oui.
Mais ça, c'est d'ordre général. C'est d'ordre général, c'est qu'on cherche maintenant des solutions techniques qui repousse de plus en plus loin tout l'entretien. Alors, on a trouvé le ciment, parce qu'on trouve que c'est plus dur que le chaud et ça repousse l'entretien tout le temps, mais avec tous les inconvénients. Et donc, c'est là qu'il faut arriver à bien mesurer, lorsqu'on met en œuvre un produit, son efficacité, la durée, contrebalancer des inconvénients qu'il peut avoir. Donc, certaines cimentations sont vraiment négatives et il faut savoir revenir en deçà de la durée pour admettre qu'un entretien avec des choses plus friables peuvent permettre une respiration suffisante.
Oui, l'entretien, c'est quand même fondamental. Entretenir tous les 50 ans le bas d'un mur, c'est pas de trop. Enfin, bon. Ceci dit, on a pris quand même l'habitude d'un certain entretien. Moi, je vois que dans Paris, les immeubles, maintenant, tous les 25 ans, tous les 20 ans, tous les 25 ans, ils sont ravalés. Donc, les gens ont pris cette attitude-là. Donc, c'est quand même... Bon, ceci dit, il faut qu'ils soient bien ravalés pour ne pas l'abîmer trop, hein, parce qu'il y a eu des ravalements complètement ravageurs. On nous a posé la question des membranes alvéolaires. Alors, ça veut dire quoi exactement là? Qui nous a posé la question? Oui.
Les membranes plastiques avec des alvéoles, des picots.
Delta MS. Delta MS, oui, qu'on met sur les murs.
Qu'on met sur les murs. Mais dans la mesure où ça maintient quand même une ventilation près du mur, c'est tout ce qui ventile. Tout ce qui ventile est bon, ça c'est évident.
Voilà. On se trompe on met les alvéoles à l'extérieur contre la terre.
Ah. On a vu ça souvent. Oui, il faut mettre l'alvéole, c'est-à-dire le petit façon pot de yaourt du côté du mur, pour que entre le mur et cette membrane, parce que cette membrane, elle est pas si bonne que ça, parce que finalement, elle est quand même imperméable. Enfin, elle a quand même quelques trous. Mais je veux dire, on aurait trouvé une manière de faire ça où on aurait des alvéoles qui permettent une ventilation, mais une membrane qui soit totalement perméable. Enfin, bon, on évite effectivement que la terre ne bouche effectivement ce petit espace de ventilation.
On peut mettre,
non, mais c'est pas mauvais.
On peut mettre des briques de 5, des briques de cloison, on les met verticales,
oui.
On empile les unes sur les autres
contre le mur.
Contre le mur.
Oui.
La condensation va se faire dans l'espace d'air de la brique et va descendre le long de la brique. Donc,
oui.
Il suffit d'orienter ces briques vers le drain,
oui.
Ou alimenter le drain. Et là, on a une solution qui ne coûte pas cher et qui n'a pas beaucoup de chimie dedans.
Entre autres, moi j'ai vu des églises se faire protéger avec des drainages et des membranes comme ça, puis on ne sait plus quoi en faire parce que ça arrive sur le sol là, et puis on ne sait plus trop comment s'en débrouiller. Alors, les techniques anciennes comme celles qu'évoque Rémi, etc., sont évidemment bien meilleures. Si vous mettez de la caillasse le long de votre mur, elle fera drain, elle fera un petit peu de ventilation, et je pense que le tour sera bien joué comme ça. Alors, un mur en pierre isolé par l'extérieur, il y a eu plusieurs ciments adhérents sur le mur extérieur, etc. Alors, tout ce qu'on a dit, on va venir à la murule après, tout ce qu'on a dit, alors moi je vous donne mon expérience, un mur de grange qui n'avait jamais été revêtu a été percé de baies, donc l'entrepreneur, pour reprendre tout ça, évidemment comme lui il a fait ça, ses percements avec des joints en ciment, etc., on a rejointoyé toute la façade, un petit peu comme ce que l'on voit ici, voilà. Alors, avec quel produit ? Un produit du commerce, il ne faut pas aller plus loin. Et puis, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques années, à l'intérieur du logement, l'eau coulait. Donc, il y avait de l'eau dans le mur, on n'arrivait pas à savoir d'où elle venait, parce que le ciment était réputé imperméable, etc. Alors, finalement, en désespoir de cause, ce que l'on a décidé, c'était d'enlever, de piocher sur quelques mètres carrés du mur des joints pour voir ce que ça donnait. Au bout d'un an, il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Donc simplement, c'est vous qui parliez de perforation. Ou vous, pardon.
Mais moi, c'est
pas vraiment granit, mais un mur de moellon de pierre, c'est pas du granit. Effectivement, le ciment est de bonne qualité. Évidemment, la logique, ça sera a priori de l'enlever. Mais est-ce qu'il serait possible de l'envisager, de le perforer, effectivement?
Mais c'est ce que je vous dis. Alors, vous pouvez faire un motif de percement, je ne sais pas quoi, pour s'amuser. Mais si vous pouvez l'enlever complètement, faites-le. Mais certains de nos adhérents à Maison 10, en particulier, là, chez Anne et James, il y avait un enduit sur une belle bâtisse très ancienne. Et James était fou. Parce que quand il voulait décoller son ciment, il emportait en même temps le granit. Le ciment mort sur le granit d'une manière monstrueuse. Donc,
la perforation, c'est pas satisfaisant.
Il faudrait perforer régulièrement, mais enfin, bon, ça. Mais vous pouvez faire un essai de toute façon d'enlever une partie et vous verrez si vous avez un comportement. Je suis sûr que vous avez un comportement. Déjà, il gourmet très vite. Vas-y, Isabelle.
C'est notre intervenante de cet après-midi.
Chez plein de personnes, quand on a enlevé les enduits-ciments, c'était impressionnant. À l'intérieur, on voyait juste les mots contre les murs, carrément, en enlevant, pas avant, bizarrement. On sentait une humidité, le salpêtre dans la maison. Et quand on enlevait le ciment, alors, avec des techniques, il y a des maçons qui savent très bien faire, justement, pour pas emporter le granit derrière, c'est tout un art, avec des petits marteaux piqueurs, en se posant de pied, surtout pas. Ils y arrivent quand même. Mais il faut vraiment le croire pour le voir. D'ailleurs, on attend toujours que le client soit là quand même, avant de tout enlever, parce que sinon, il ne croirait pas. Parce que dès le lendemain, ça sèche. C'est incroyable. Et on attend
pas. Ah oui, le mur se vide.
Alors,
pratiquement, ça c'est une technique qui s'est faite de percement des murs. Mais là, il faut faire des percements. Bon, ça se fait avec une grosse mèche. Il faut au moins une taille du 30, voire du 35, voire du 40. Et on fait des trous, ça devait être 60-70 qu'il y avait entre chaque trou, hein, comme ça. Mais ça fait un nombre de trous assez important au travers de tout le mur. Et de façon à permettre une dépression à l'intérieur du mur, et par le courant d'air qui peut s'établir, de pouvoir enlever l'eau. Ça marche, mais c'est pas très très avantageux, parce que là, le nombre de trous qu'il faut faire avec une grosse mèche au travers d'un mur de 5 ans, c'est pas simple. Mais ça se fait, effectivement.
Dans la maison dont je parle, il n'y avait pas beaucoup de désordre intérieur. Mais on comprend bien que ce n'était pas favorable au mur et que c'était un compromis. Je ne sais pas dans quelle mesure il était possible, simplement avec des petites mèches et faire beaucoup de trous, je sais pas, des 15-20 cm.
De toute façon, point de vue thermique, c'est pas bon. Parce que le ciment, ça vous conduit, hein, c'est comme une plaque de métal, ça vous conduit le froid directement sur la pierre. Donc si vous avez un autre matériau, rien du tout, c'est mieux. Et encore mieux, c'est d'avoir un enduit à l'ancienne. Hein. Voilà.
L'enduit à l'ancienne dont vous parlez là, est-ce qu'il... parce qu'il y a pierre vue, il y a pierre apparente, il y a...
Non, mais quand je parle enduit, c'est un enduit en plein.
Oui, alors oui. Pourquoi est-ce que les grands... Bon, c'est peut-être une question de moyenne. Pourquoi est-ce que les enduits... Il n'y a pas d'enduit sur les granges, et les granges sont encore debout. Et vous disiez, on met des enduits sur les maisons et ça protégeait la...
Parce que les hommes ont besoin de plus de confort que les moutons ou que les bestiaux. Ouais. Ouais. Parce que ça vous isole du froid... Ça vous isole des courants d'air, ça vous donne un confort du mur bien meilleur.
D'accord.
Sur l'humidité aussi, etc.
Et si on ne fait que les joints, est-ce que, même si on a moins de confort, est-ce que ça abîme le mur ou ça
protège... Si vous faites des joints en ciment, c'est très mauvais.
Non, oui.
Bon, voilà. Mais
terre chaude...
Si vous faites des joints à la terre, c'est parfait.
D'accord.
Voilà.
Et l'érosion, et l'érosion sur la terre chaude...
L'érosion, vous le voyez, les vieux pignons, on voit les vieux pignons, là, ils sont érodés. En 150 ans, ils ont perdu un centimètre de profondeur avec les oiseaux, le vent, la pluie, etc. Puis c'est tout. C'est tout. Tu veux parler de la mérule, Isabelle, peut-être.
Refais un essai de micro, Isabelle. Jean-Paul, ne pense pas, il te chiste.
Non,
attendez, refais un essai.
Comment on est à la maison qui vient de France, on attaque la mérule quand elle a installé dans la maison, qu'est-ce qu'on fait, à part ouvrir les...
En tout cas, moi, je peux vous dire, tu vas me compléter. Moi, je vous ai donné les règles pour développer la mérule. Hein. Pas de ventilation, une bonne température et puis de l'humidité.
Non, je rajouterais de l'obscurité aussi.
Et l'obscurité en plus.
Vous avez donné les règles pour l'installer.
Et bien, si vous en...
Vous avez installé chez le voisin qu'on n'aime pas, d'accord. Et vous n'avez pas donné les règles.
On fait le contraire.
Ben, justement... Vous ne chauffez pas, vous ventilez et puis vous...
Il faut l'éradiquer.
Hein ?
Il faut l'éradiquer, il n'y a pas d'autre solution.
Elle s'éradique toute seule.
Non,
mais après, il faut la brûler.
C'est un champignon,
il faut la
brûler.
Oui.
Oui. Une dizaine d'années, et sous l'effet de l'obscurité, ça je suis tout à fait d'accord.
Oui.
L'humidité, ça repart. Et en 2 semaines, ça peut compter.
Oui, mais non, il y a des sports quasiment toujours partout. Donc, dès que vous allez...
Il a été atteint par la mérule, il y a quand même peu de chances d'être atteint.
Non, mais là, dès que vous avez les bonnes conditions, elle se développe. Dès que vous enlevez les conditions, elle ne se développe plus. Donc, il faut gratter celle qu'il y a, réparer les dégâts. Et moi, je ne vois pas d'autres...
J'ai une expérience professionnelle sur un... maison où deux voisins, ne pouvant s'entendre, ont fait chacun leur mur de 50 cm. Il y a ça d'espace entre les deux murs. Ces maisons, après péripétie, ne sont plus habitées, résidences secondaires, enfin, non. Les gens n'allaient plus dedans au bout de 3-4 ans. Dans la première, sans rien dire, on a tout changé parce que tout le bois était mort, la mérule s'était mise partout. C'est passé au travers du mur pour arriver chez l'autre voisin. Il y a eu un décalage. Ça fait la même chose à l'autre. Nous, on a dû intervenir, le gars, il voulait un plancher en bois. On lui dit, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça reviendra. La preuve en est, c'est qu'on a fait un plancher béton. Donc, on a ouvert les murs pour faire nos ancrages, en plein mur, alors que la maison a été ouverte, chauffée, enfin ventilée, tout ça, en plein mur, comme ça. On avait des filaments plein le mur. C'est que quand on en a comme ça, à part de passer tout en minéral, on n'y arrive pas. On n'a pas de solution. Quoi.
La solution, c'est pas 100 000.
Voilà, moi j'ai eu donc une autre expérience quelques années auparavant, où c'était dans une cave. Le gars, il a tout essayé. Hein. Il a tout essayé de brûler. Il a passé des bouteilles et des bouteilles de propane. Il a tout brûlé. C'est reparti. Sitôt, les conditions ont été là. Il n'y a pas eu... il n'a pas pu faire autrement que d'enlever tous les bois et de repasser en plancher béton, en plancher minéral.
Et ça ressemble à quoi, là, les
marbre? Ça part un filament blanc. Ça peut traverser une pièce comme ça, sur le carrelage. Quand ça arrive de l'autre côté, ça repartira.
Et c'est des filaments qui traversent, qui va chercher l'humidité et qui peut approvisionner l'humidité
voilà.
3-4 mètres après.
Voilà. Ça peut traverser une pièce comme ça sur le carrelage.
Ça fait une espèce de...
C'est impressionnant.
C'est quoi cette texture? C'est
un filament. Les trois conditions pour le départ, mais après il peut manquer une condition. Avec deux conditions, ça continuera de vivre.
Et alors, les traitements sont très chers.
Les traitements sont pour la place. C'est un argument de pour acheter une maison.
Est-ce que ça se diagnostique au même titre que l'amiante, les termites, le plomb?
Oui, il y a un diagnostic. Il y a un termite. Hein.
Mais
il n'y a pas de diagnostic. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par l'effet d'humidité dans le mur dont je vous ai parlé, sur lequel on a déjoint paillé sur quelques mètres carrés, donc ce mur est devenu sain. Et les effets pervers, c'était que le contre-linteau, c'est-à-dire la partie en bois côté intérieur, était, alors comme ça avait été traité avec une l'azur, le bois apparaissait normal, en quelque sorte, comme celui-ci. Et quand vous preniez un crayon à billes ou un crayon, vous pouviez traverser ce linteau qui avait été fait avec une solive de récupération, vous traversiez le linteau de part en part. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça, moi, je l'ai constaté. En 10 ans, il n'y avait plus rien du tout. Visiblement, vous voyez rien. Heureusement que tout avait été... Enfin, heureusement, pour des questions de stabilité, ça avait été cimenté au-dessus. C'est ça qui a créé tous ces problèmes-là. Mais donc, en l'espace de 10 ans, un bois ancien en chêne, attaqué par la mérule, donc était devenu complètement fibreux et non plus porteur. Et donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut supprimer les conditions d'émergence de la mérule. Déjà, ça c'est la forme. Et donc après ça, dans cet intérieur-là, il n'y a plus de problème.
On parle du plancher béton, mais il faut passer en minéral. Alors, on peut aussi passer avec une dalle en chauchant.
Oui.
J'ai bien dit minéral.
Ou en chine ou en. Oui, on passe en minéral. Parce que dans le même
champ, il n'y a pas eu des
choses
de la
mérule. Vous vouliez dire quelque chose? Non,
non,
je ne sais plus. Il y avait des histoires de trottoirs imperméabilisés par la municipalité, est-ce qu'on peut aller contre, etc. Il y a certains, moi j'ai visité certains villages, alors pas ici, mais par exemple en Picardie, où un joli village, ben, la municipalité a décidé que les trottoirs, ils étaient ou sablés, en sol stabilisé, ou en gazonné même. Voilà. On peut très bien faire ça aussi. Hein. On a vécu des siècles comme ça. Alors évidemment, on se met un peu de sable sur les semelles. Pour rentrer chez soi, il faut se taper les pieds, mais c'est tout. Mais
c'est pas grave,
hein. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais évidemment, et on évite des coûts d'assainissement, de drainage par la municipalité avec des conduites de plus en plus importantes. C'est une économie.